Salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, le podcast Blueprint qui parle d'un ou plusieurs jeux vidéo. Je m'appelle Lou et toi, c'est Yann. Salut Yann.
Salut Lou, comment ça va hein?
Bah écoute, ça va très très bien. Nous sommes encore en charmante compagnie ce soir, comme la semaine dernière, puisqu'avec nous, nous avons toujours l'ami Greg Yenko qui nous vient de sa Belgique natale, j'allais dire sa Bruxelles natale, mais non, c'est Belgique le pays.
Magique c'est le pays, Bruxelles c'est la ville. Bonjour à toutes et à tous.
Et puis, à côté de toi, il y a également Morty.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une autre galaxie.
Ah non, ça c'était l'épisode de la semaine dernière, mais c'est pas grave. Je vous renvoie du coup à cet épisode sur Super Mario 3D All-Stars. Mais aujourd'hui, mon cher Morty, nous allons parler de Spelunky 2. Nous allons explorer un petit peu les cavernes profondes. Mais avant que l'on commence, mon cher Yann, tu as une chose à nous dire.
Effectivement, et c'est le deuxième épisode de suite qui commence avec un truc qui peut être interprété de plein de manières différentes. Donc, avant qu'on commence, je vais vous parler pendant un instant du nouveau Vulpo podcast Archive Patreon. Autrement dit, vous pouvez y retrouver depuis que notre Patreon s'est arrêté, s'est terminé, a disparu, s'est retrouvé enseveli sous les ruines de Spelunky 2 peut-être. Vous pouvez retrouver tous les contenus qu'on a produits dans le cadre du Patreon gratuitement sur ce flux podcast. Vous allez sur blueprint.pm, vous scrollez jusqu'au blog et c'est une des news les plus récentes dedans. Vous pouvez également chercher Archive Patreon Blueprint sur votre application de podcast favorite dans son catalogue et vous devriez trouver tout ça très facilement et retrouver donc plus d'une dizaine d'heures de contenu inédit si vous n'avez jamais participé au Patreon de Blueprint. Donc c'est fun et il y a plein de trucs de la cartouche à l'intérieur. Il y a également un épisode de Tech 2 où Franck et moi revenons sur Star Wars 9 Rise of Skywalker. Enfin, il y a plein de trucs fun là-dedans. Il y a une interview que je fais de Lou pour un papier pour Red Bull à propos de Pokémon et de la région de Kanto. Et en même temps, quelqu'un, et c'était à l'époque pré-Covid, où quelqu'un était en train de littéralement ramener mon radiateur dans la même pièce. Je crois que je l'ai coupé au montage, mais c'est à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai appris par la suite que le mec qui était venu faire ça, il y avait deux personnes qui étaient venues et... une des deux personnes avait été surpris d'entendre cette conversation-là et avait trouvé ça très intéressant. Donc voilà, les 1 sur 2 ingénieurs en radiateur qui écoutent la cartouche kiffent. Hein, et j'ai envie de te dire que c'est déjà un bon ratio. Donc oui, effectivement, mon cher Lou, aujourd'hui on parle de Spelunky 2.
Spelunky 2, donc un jeu de creusage, on peut dire, d'exploration en tout cas souterraine. Oui. J'ai envie de dire que je connais pas forcément très très bien le jeu. Pourtant, je vais vous parler un peu de mon expérience avec cette série. J'ai acheté le premier Spelunky et je me suis arrêté là. Malheureusement, c'est parti des nombreux jeux. Okay,
t'as surtout une relation commerciale avec Spelunky.
Exactement. Donc je suis content d'avoir participé financièrement
à l'aventure,
à remercier le développeur, mais j'aimerais bien essayer un jour ce jeu. Et d'ailleurs, je me souviens de la raison pour laquelle je ne l'avais pas lancé à l'époque, parce que c'était à l'époque où je faisais les succès, parce que je l'avais acheté sur 360. Ah. Et du coup, je ne lançais qu'un jeu vraiment à un moment très précis pour être sûr de pouvoir le finir à 100%. Et les succès de Spelunky étaient relativement difficiles. Alors, j'espère que vous avez joué plus que moi. Du coup, je vous pose la question. Combien de temps avez-vous joué?
Alors, en ce qui me concerne, à Spelunky 2, j'y ai joué, je dirais, entre 5 et 10 heures à vue de pif. Je suis mort 300 fois, un peu plus de 300 fois. J'ai joué deux fois en online, une fois avec des inconnus, une fois avec Morty ici présent, que je remercie d'ailleurs, parce que c'était très très fun. C'était une belle soirée qu'on a passée. On a joué une ou deux heures ensemble. C'était bien rigolo. C'était en début de cette semaine. Et sinon, voilà, j'ai progressé, mais je ne l'ai pas terminé dans ce laps de temps-là. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir pourquoi. En ce qui concerne le premier Spelunky, là, j'y ai mis un nombre incalculable d'heures. Je pense que ça se compte en dizaines. Et je l'ai terminé. Terminé. Je suis arrivé au boss de fin et je l'ai battu sur la version Xbox 360, qui est la version originale, sur la version Vita et sur la version PS4. Autant vous dire que je suis un petit fada de Spelunky, sans être aussi expert que Morty, qui est avec nous ce soir, et ça me fait vachement plaisir parce qu'il est extrêmement calé. Et Greg aussi, je crois, est assez calé dans Spelunky, si je dis pas de bêtises.
Spelunky 1, j'y ai énormément joué, je m'amusais même à faire des speed run, donc c'était avoir tous les raccourcis et terminer donc jusqu'à la fin, jusqu'à Olmec. Donc j'y ai passé, je pense, facilement 400-500 heures aussi.
Ouh là là,
là-dessus. Et donc du coup, je suis très impatient d'avoir votre avis sur Spelunking 2 parce que je me suis dit, je vais attendre d'abord votre avis avant de voir si je me lance également sur ce deuxième opus.
Et tu pourras nous poser des petites questions évidemment en cours de route. Il reste une personne qui n'a pas encore parlé jusque-là, c'est Morty.
Bah, tout à fait.
Et ben, je suis même pas sûr d'avoir dépassé Greg en fait en termes d'heures. Le souci c'est que Steam m'annonce 250 heures, mais comme le disait Yann, le jeu étant multiplateforme et ayant platiné tous les supports, j'ai dû y passer un peu de temps sur tous les autres. Mais du coup, ouais, je dois approcher des 400-500 heures de jeu. Moi, côté speedrun, j'ai pas fait du coup ce que tu as fait, Greg. Je suis plus parti sur le any percent, c'est-à-dire essayer de finir le jeu en 5 minutes et moins. Et puis surtout mon défi, moi, c'est plutôt les défis quotidiens. J'ai l'habitude de me plonger dans les défis quotidiens, d'essayer de récupérer le maximum d'or, et j'ai à mon actif quand même 3 top 10 sur la dernière année. Je maîtrise pas mal le jeu, mais Yann m'a montré que effectivement apprendre un nouveau jeu, c'est pas forcément l'expérience sur le premier qui compte.
Alors, justement, on va planter le décor. Il faut qu'on fasse un rappel. Déjà, c'est quoi le concept, l'histoire, entre guillemets, de Spelunky? Et comment ça se traduit d'un point de vue de gameplay?
Alors, vous êtes un explorateur, vous voulez explorer, vous voulez récupérer du trésor, et si possible, vous voulez survivre. Quand vous mourrez, vous recommencez au début, et vous recommencez au début avec les ressources de base, c'est-à-dire 4 bombes, 4 cordes et 4 points de vie. Ça ne change pas par rapport au premier Spelunky, c'est aussi le cas dans Spelunky 2, et ce qui ne change pas non plus, c'est la structure générale, puisque vous contrôlez le jeu, c'est clairement un jeu de plateforme en 2 dimensions, vous pouvez donner des petits coups de fouet à la Indiana Jones, devant vous, il y a également la hitbox qui fonctionne un tout petit peu derrière vous, jeter des bombes. Les cordes donc vous servent à pouvoir grimper un petit peu au-dessus ou à descendre en rappel au-dessous de vous sans vous prendre de dégâts, et l'objectif, vous commencez au sommet du niveau et vous devez atteindre l'arrivée qui est en bas, mais tous les éléments au milieu, la composition des niveaux, etc., tout ça est fait aléatoirement, et donc vous ne savez pas où se trouve la sortie, vous ne savez pas le genre de piège qui vous attendent, et vous allez devoir découvrir ça partie après partie, mort après mort, exploration après exploration. Alors dans le premier Spelunky, c'était 4 mondes de 4 niveaux avec un boss de fin en guise de 16e et dernier niveau. Spelunky 2 change pas mal là-dedans la recette. On va pas tout spoiler dans cet épisode, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a plus de monde et il y a plus de d'environnement également. Et ça fait partie, on va dire, d'un trend dans Spelunky 2 qui en fait un jeu plus difficile et également plus fourni. Est-ce que Morty, par rapport à cette question-là de quel genre de jeu c'est, comment se passe une partie, tu veux ajouter des choses?
Non, tout à fait, c'est ça. C'est à la fois savoir gérer son inventaire. On n'est pas du tout dans un développement de build comme dans un roguelike habituel. Là, on essaye juste de récupérer les objets qui vont nous faciliter la descente, mais il n'y a pas de combo, il n'y a pas de profondeur dans le système de personnalisation. Et on essaye juste de récupérer les objets qui vont nous aider à soit creuser plus en retrouvant des bombes, soit se défendre contre les ennemis avec un fusil, ce genre de choses, quoi.
C'est illusoire de se dire qu'on va réussir Spelunky du premier coup. L'idée, c'est vraiment de, comme j'ai dit tout à l'heure, mais de mourir pour pouvoir apprendre et de tester différentes combinaisons, de se dire tiens, tel objet contre tel ennemi, qu'est-ce que ça donne, si je tire au shotgun sur ce grand Yeti, qu'est-ce qui se passe, si j'utilise mes chaussures à crampons sur telle surface, est-ce que je me fais mal, est-ce que je me fais pas mal, pourquoi, comment, etc. Et Spelunky 2 ajoute tellement de variations et tellement d'éléments supplémentaires, ne serait-ce que dans ses environnements, ses pièges et ses ennemis, que je veux pas dire que tout est à réapprendre, mais en tout cas certaines choses sont à désapprendre et d'autres sont à découvrir et à incorporer. Alors évidemment, pour un joueur novice, il y a encore plus de choses à découvrir et je veux dire une courbe de difficulté qui est potentiellement encore plus haute que si on jouait au premier épisode. Autre chose que je veux préciser, donc vraiment on se contrôle comme un jeu de plateforme, vous explorez du haut en bas littéralement les niveaux. Généralement, il faut être assez rapide. C'est un jeu qui est pas mal aussi dépendant sur les réflexes. Il y a une partie de réflexion de se dire quelle est la meilleure stratégie avec les items que j'ai en main et avec ce que la génération aléatoire du niveau m'a donné. Mais il y a vraiment une nécessité de réagir au quart de seconde. On peut très très vite mourir dans Spelunky, que ce soit le 1 ou le 2, c'est l'affaire d'une demi-seconde. Je pense que Greg, tu peux aussi en témoigner de ça.
Oui, non, clairement, le parce que sur les 400, 500 heures, je ne pense pas que j'ai réussi 400 ou 500 parties, par exemple. je pense qu'il y en a énormément qui se sont terminées, genre sur le monde 4-2, lors du premier Spelunky, juste avant le boss final. Mais justement, c'est quelque chose que j'avais demandé, justement, au niveau de la rapidité. Au niveau de Spelunky 1, par exemple, quand on ne terminait pas un niveau assez vite, je pense que c'était plus ou moins autour de 20 secondes, il y avait des effets négatifs en plus qui pouvaient arriver sur le niveau suivant, par exemple être dans le noir ou ce genre de choses. Est-ce que ici aussi c'est le cas, c'est-à-dire si on ne va pas assez vite, on a des effets négatifs qui peuvent s'ajouter
Oui.
dans les autres
niveaux? Alors il y a toujours le fantôme, par exemple si tu déplaces les 3 minutes dans un même niveau, un fantôme va commencer à te poursuivre dans le niveau, et évidemment le toucher équivaut à mourir. Et il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, par exemple d'autres façons de faire apparaître le fantôme ou d'autres désavantages à rester trop longtemps dans le même endroit, ne serait-ce que simplement parce que le chaos qui est constant dans Spelunky, le chaos génère généralement de la mort, et donc du coup rester dans un même niveau, je veux dire, avec je prends l'exemple d'un des environnements, je crois un des environnements qui est possible pour le monde 2, c'est un volcan, et dans ce volcan il y a, je crois que tu les aimes pas beaucoup, Morty, ces petits robots, et quand tu leur appuies sur leur tête, pouf, ils se mettent à courir et 3 secondes après ils explosent.
Ah, j'adore les robots parce qu'ils sont extrêmement prévisibles. Le souci, c'est qu'effectivement, le monde de la lave étant régi par la mécanique des fluides, on se retrouve avec des explosions qui sont pas forcément maîtrisées et qui répandent de la lave partout. Et la lave étant une source instantanée de décès, c'est un niveau que j'aime moins, effectivement.
Comme beaucoup de choses dans le jeu, ouais.
Oui. On a pu cerner un petit peu au fur et à mesure de vos échanges les différences du coup entre le premier et le deuxième. Le premier était réputé pour être quand même relativement difficile, si je me trompe pas. Le deuxième est pire ou est-ce qu'il est quand même un peu plus accessible?
Le deuxième est, je crois que la notation scientifique est, je reprends un petit peu évidemment des termes qui ont été utilisés par des linguistes, par des grands philosophes, grave pire.
J'allais dire 11 sur 10, effectivement, on n'est pas loin.
Comment dire, le premier monde est vraiment injuste, à tel point que je trouve que le second monde, suivant l'environnement que vous sélectionnez, et je vais revenir à cette idée de sélection d'environnement dans un instant, peut paraître plus facile que le premier monde, notamment à cause, et là aussi encore une fois, je reprends vraiment un langage qui est utilisé par les grands auteurs de notre temps et des temps anciens, ces putains de taupes qui sortent de nulle part et qui viennent te bouffer un voire plusieurs points de vie parce qu'elles te stunnent, parce qu'elles t'évanouissent en gros et tu peux pas te relever, et qui vont te grignoter ta vie, c'est, j'ose le mot, saloperies qui se cachent un petit peu partout dans les galeries du premier monde, sont infâmes, sont dignes d'un second ou d'un troisième monde, sont dans le premier, et on va dire être une sorte de comité d'accueil à la hauteur de la difficulté de Spelunky 2, ce qui en fait pas, à mon avis, un mauvais jeu ou un jeu frustrant, parce que ce gameplay où tu recommences et tu apprends et tu découvres et il y a une part de hasard et parfois t'as de la chance et tu le mérites pas mais t'as de la chance quand même, rend le truc fun malgré tout et te donne quand même envie de relancer 1, 2, 3 parties. Morty d'ailleurs, tu t'en rappelles quand on jouait ensemble, j'étais en mode oui c'est ma dernière pour ce soir, et puis ma dernière pour ce soir a duré 1/2 ou 3/4 d'heure, mais
tout à fait.
Mais le truc est là, si tu veux, c'est que oui c'est plus difficile. Après, ce qui est intelligent chez Mosmouth, donc qui est le studio de Derek Yu à la base du jeu, même si là ils ont bossé également avec Blitzwork sur les parties plus techniques code sur ce titre là Blitzwork qui avait notamment travaillé aux adaptations, je crois, console PS4 et Vita du jeu, qui sont, on va dire, assez familiers du fait de travailler avec les développeurs indépendants. Je crois également qu'ils avaient travaillé à adapter Fez sur certaines consoles. Bref, parenthèse fermée, ce jeu-là permet justement de sélectionner un petit peu sa difficulté, puisque contrairement au premier Spelunky, et désolé pour ce petit spoil Greg, mais c'est vraiment consubstantiel à Spelunky 2, le monde 2 et le monde 3, tu as le choix, quand tu termines le monde 1 et le monde 2, entre deux environnements différents. Tu peux choisir deux environnements différents et qui sont également différents dans la façon dont ils se jouent, parce que les pièges sont pas les mêmes, parce que l'agencement même si c'est généré aléatoirement, l'agencement des niveaux finalement ne sont pas les mêmes et s'adaptent à un style de jeu. Donc suivant comment quelqu'un joue, bah comme Morty joue, il préfère la jungle et moi je préfère le volcan par exemple.
Et clairement il y a un niveau de difficulté différent. Le monde de la lave est quand même plus facile. Il y a un autre monde que je spoilerai pas, mais grosso modo si on reprend les mondes de Spelunky 1, ils sont vraiment faits pour les adeptes de Spelunky 1. Tu vas retrouver les mêmes secrets, tu vas retrouver les mêmes environnements, et ils vont même t'avoir ajouté un petit peu de difficulté.
Oui. Et autre chose pour ajouter de la difficulté, il y a toujours trois raccourcis, ils sont toujours au même endroit, mais il y a plus de monde pour arriver à la fin du jeu. Et ça, ça c'est une vacherie. C'est une vacherie vraiment énorme, parce que ça pousse le joueur à se dépasser. En fait, moi, comme j'interprète, c'est clairement les développeurs de Spelunky qui se sont dit, bon, il y a beaucoup trop de gens, il y a 3,2% des gens qui ont réussi sur PS4 à terminer Spelunky 1, c'est un affront, il faut qu'on fasse baisser ce taux pour Spelunky 2. Je l'interprète que comme ça. Donc oui, ils en ont fait plus, plus dur, mais à mon avis, toujours aussi fun.
Aïe, aïe, aïe. Bon, alors si c'est difficile, il faut quand même des bonnes techniques, du coup, pour essayer de s'en sortir. Est-ce que vous avez des stratégies pour essayer de survivre le plus facilement possible ?
Moi, je vais
le moins difficilement possible, j'ai envie de dire.
Moi, je veux entendre Morty là-dessus.
Si possible, faire une partie avec quelqu'un qui connaît le jeu. C'est déjà un très bon, c'est déjà un très bon départ parce qu'il va pouvoir vous montrer un peu les endroits, ce à quoi faire attention, ce qui n'est pas grave, ce qui est très dangereux.
C'est sympa ce côté exploration à plusieurs aussi quelque part. Enfin, c'est tu suis un petit peu le grand
oui.
explorateur.
Alors,
enfin, y a un côté
dit,
très enrichissant.
Il y a du friendly fire, que... donc faut faire gaffe.
Oui, c'est vrai. D'autant plus que le Spelunky 1, il a fallu attendre assez longtemps sur PC pour avoir un mode qui permettait de jouer en multi. Donc c'était une expérience qui était principalement solo, mais c'est vraiment dommage. Et ça a été tout de suite compris par Derek Yu quand il a fait la suite. Il s'est dit c'est quelque chose à partager en groupe. Et effectivement, pouvoir apprendre le comportement des ennemis, etc., sans être trop pénalisé, le mieux c'est de le faire avec quelqu'un qui connaît, parce que tu peux te faire pénaliser et ton copain te ressuscitera au niveau d'après, et ça changera rien, parce que comme tu n'as pas de progression, tu n'as pas d'expérience, tu as éventuellement perdu ton équipement, ça ne t'empêche pas de continuer l'aventure au même niveau que ton ami. Et ça c'est très appréciable. Après effectivement, bah si tu découvres le jeu, c'est un petit peu, j'ai pas envie d'utiliser le terme mais je vais être obligé de l'utiliser quand même, c'est un peu comme un Dark Souls, c'est-à-dire que tu vas avancer dans un niveau, tu vas te heurter à une difficulté, tu vas essayer de, contrairement à Dark Souls, tu vas peut-être plus expérimenter, parce que sur un run de 5 minutes c'est pas pareil que sur une demi-heure avant de trouver le prochain feu de camp. Tu vas pouvoir expérimenter, comme le disait Yann, tu vas utiliser ton fouet pendant les trois quarts de l'aventure et d'un coup tu vas tomber contre un ennemi qui est humanoïde aussi, qui s'appelle le Yeti, tu vas lancer ton fouet dessus, tu vas t'apercevoir que c'est le seul sur lequel ça ne fait rien. Donc après tu vas essayer de trouver comment tu peux le détruire, etc. Donc, mais ce qu'il faut vraiment, c'est tu vas mourir. Forcément, tu vas mourir. C'est fait pour. Tu vas mourir des fois de manière extrêmement hilarante. Ça, il y a des morts où tu te dis, OK, jeu, tu m'as bien eu. Là, franchement, c'était vraiment excellent. Et surtout, il va falloir que tu testes. Bah, avec Yann, on a découvert, alors, mini spoiler, à un moment, tu vas croiser des ronces. Et ces ronces-là, je mourais souvent dessus. Et Yann me dit, mais est-ce que t'as essayé avec des bottes? Et du coup, bah, je saute dessus avec des bottes et je fais, ah bah du coup les ronces ne me font rien quand j'utilise des bottes. et du coup en expérimentant des choses comme ça, tu développes ta maîtrise du jeu, et c'est ce qui me fait dire, là, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut démarrer le jeu et le réussir du premier coup? Alors non, c'est pas le cas. Par contre, moi la première fois que j'ai lancé le jeu sur Vita, j'ai fini le jeu en enfer. Donc pour le premier Spelunky, il y avait 4 mondes plus un caché, et j'imagine que pour le 2 il y aura encore plus de choses cachées, du premier coup sur ma Vita. Donc c'est typiquement le genre d'expérience où tu deviens, c'est toi qui as pris de la compétence. Contrairement à un Binding of Isaac où tu vas chercher un bon build pour pouvoir progresser aisément dans les niveaux, Spelunky tu en as pas besoin. Ouais. Tu peux finir un jeu, tu peux finir un run sans avoir pris aucun objet. D'ailleurs, bah c'est l'objet de certains speedruns que j'ai pu faire. Tu ne prends absolument rien et tu vas jusqu'à la fin du jeu comme ça.
La clé de la victoire est en toi en quelque sorte.
Exactement. Et c'est ce qui est d'autant plus frustrant quand tu t'attaques à Spelunky 2, c'est que après avoir acquis autant de maîtrise sur le Spelunky 1, tu te dis, bon bah le Spelunky 2, ça va être une promenade de santé. Je vais avoir à apprendre des nouveaux ennemis, des nouveaux environnements, mais globalement, ça va le faire. Et ils ont fait quelques modifications sur lesquelles je suis pas toujours d'accord. Hein. Y a des moments où je regrette un peu les décisions de Derek Yu. Mais globalement, la seule chose que tu vas pouvoir réutiliser, c'est ta connaissance un peu du déplacement du personnage.
Oui, la physique encore, qui est extrêmement fidèle et que je trouve même plus agréable, un tout petit peu plus rapide, un tout petit peu plus nerveuse que le premier d'ailleurs.
Elle est plus réactive, mais les hitbox sont plus petites. Et du coup, moi, c'est la source de 80% de mes décès dans le jeu.
Donc c'est que du coup, c'est plus exigeant et en même temps, c'est plus
tolérant parce que ça veut dire qu'un ennemi te touche moins facilement. Mm. Par contre, ça veut dire que toi, pour l'écraser, c'est un peu plus difficile.
Et tu prends le risque du coup de le toucher au lieu de le tuer, oui.
Exactement. Et du coup, il faut désapprendre certaines choses. Mm. Et ça c'est relativement compliqué. Ouais. Par contre, effectivement, tous les ennemis que tu connais vont réagir de la même manière, ou quasiment exactement de la même manière. Donc tu sais comment t'en débarrasser. Ouais. Ça veut dire que c'est pour ça que moi aussi je suis plus friand de certains environnements parce que je les connais déjà. le nombre de découvertes est limité.
Ouais.
Dans le premier, on pouvait finir finalement aller jusqu'à Olmec ou l'enfer entre guillemets. Bon, il y a des speedruns, évidemment, en effet, 5 minutes, etc. Mais disons qu'un joueur normal allait autour de 20 minutes, une demi-heure, il pouvait avoir terminé Spelunky 1, une partie de Spelunky 1. Mm-hmm. Ici, Spelunky 2, ça prend plus ou moins combien de temps? Plus ou moins le même temps ou...
On peut pas te dire.
Si je juge par l'apparition du fantôme, qui a été tiré de 2 à 3 minutes, je dirais que c'est un tiers plus long. Et parce que globalement, je pense... Enfin, du coup, j'ai pas voulu me spoiler, donc je vais probablement dire des bêtises, mais en participant au classement en ligne, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fini au 6-1, voire 9-1. Donc je me dis que potentiellement, il peut y avoir 6 mondes. Avec des guillemets, et sans trop de spoil, puisque j'ai pas pu le... C'est pas un témoignage de première main,
non,
mais a priori,
il fait
un
truc étrange avec la numérotation des mondes, faut le dire aussi. Hein.
C'est probable.
Il y en a plus, mais il fait aussi un truc étrange parce que il y a une différence entre dans quel monde tu es, simplement en termes de succession de difficultés, et dans quel monde tu es, parce qu'il identifie les mondes, y compris des mondes parallèles, comme par exemple la jungle et le volcan, qui sont tous les deux des mondes 2, avec des chiffres différents dans certains autres écrans. Ce qui est un petit peu bizarre, mais voilà.
Ok.
Mais pour revenir à ta question, moi, alors, j'étais curieux de ça aussi. Et je suis pas arrivé au bout parce que j'ai simplement, enfin voilà, il faut que j'y joue plusieurs dizaines d'heures pour arriver là, je pense, ou au moins une dizaine d'heures pour en arriver là, je pense. Mais je suis peut-être un peu pessimiste, mais toujours est-il plusieurs heures. D'après ce que j'ai vu sur YouTube, sans regarder les vidéos, mais en regardant les durées, un speedrun peut être de 4 ou 5 minutes pour vraiment quelqu'un de bien habitué. Ouais. Et une partie standard où tu arrives à la fin sans être un speedrunner de ouf a l'air d'être dans la tranche 25-30 minutes.
Ouais, c'est pas étonnant.
À ce stade, mais encore une fois, on est une semaine et demie après la sortie du jeu. On n'est pas 8 ans après la sortie du jeu. Donc, il y aura des techs qui sont découvertes.
Ou même 12 ans, parce que la première version de Spelunky, c'est quand même il y a 12 ans. Il faut pas l'oublier.
C'est vrai, mais c'est... Alors, on discutait dans l'épisode précédent de la différence entre remaster, remake et portage. Là, pour le coup, c'est un remake complet.
Ouais, c'est ça. Donc, pas tant que ça, parce que la palette de mouvement était quasiment identique. Pour l'avoir réessayé, la seule remarque que je faisais, c'est que moi, je pouvais pas jouer à la manette, donc je retrouvais pas mes marques.
Ah, bien sûr.
Je jouais au clavier, et du coup, je sentais que c'était le même feeling, mais j'arrivais pas, je l'avais pas en main, quoi.
D'ailleurs, je fais une rapide parenthèse pour dire, Spelunky 2, le jeu qui te fait redécouvrir les quatre boutons directionnels de la manette PS4.
Ouais. Et c'était vrai aussi de Spelunky 1, en fait. Je pense que j'ai dû passer 30 ou 40 heures avant de jouer à la croix directionnelle, et d'un seul coup, j'ai doublé ma durée de vie.
Ça change la vie.
C'était incroyable.
Ça permet une bien meilleure précision, effectivement.
Alors, parmi les nouveautés du coup de ce Spelunky 2, il y a l'apparition du mode online. Qu'est-ce que ça vous inspire, Morty? Commençons par toi.
Ah bah du coup, moi, ça me permet de partager un jeu que j'adore. Donc, fatalement, je trouve ça fantastique. Pour l'instant, c'est que sur PlayStation, donc j'ai pas beaucoup de gens que je connais qui jouent sur PlayStation. Mais je peux te dire que je vais continuer ma vocation didactique sur ce jeu en entraînant tous les amis Steam que je pourrais, en leur offrant le jeu, en les forçant à jouer, etc.
Ah, carrément.
Je vais essayer de faire une école de Spelunky 2.
Ah, comme de Spelunky.
Comme une école
Spelunkiste.
De Jedi.
Et toi, Yann, du coup, c'est un mode que tu attendais? Est-ce qu'il y a des limites, des limitations? Qu'est-ce que tu...
Ma PS4 est en Wi-Fi, c'est pour ça probablement qu'on a eu des petits problèmes sur les dernières 30 minutes quand on a joué avec Morty. On a eu des petits soucis de désynchronisation. Reste que le netcode a l'air beaucoup plus fiable que Super Mario Maker 2.
Et même plus que ça, c'est que si j'ai bien compris, ils ont implémenté le rollback,
ouais.
Ce qui est quelque chose que les joueurs de jeux de baston, par exemple, réclament depuis des années, qui est difficile à coder et qui s'assure justement que chacun voit exactement la même chose que l'autre.
Et encore une fois, sur un jeu aussi nerveux, c'est impressionnant. On n'est pas forcé d'être dans le même cadre comme quand on joue en multijoueur en local, ce qui est là aussi très bien parce qu'on peut du coup explorer chacun dans son coin. Et on peut jouer contre des randos, on peut jouer contre des gens qu'on ne connaît pas, entre 2 et 4. Il suffit juste de dire, bah voilà, là il y a assez de personnes, c'est parti, ou au contraire, je vais attendre qu'il y ait plus de gens qui soient connectés. Et ça, je trouve ça assez agréable aussi. Alors évidemment, il faut arriver à faire quelque chose en communication non verbale, en sautant dans des coups de fouet. Mais pour le reste, non, ça marche bien, je trouve. Et ça c'est chaotique, forcément. Mais c'est plaisant, surtout dans nos temps de Covid, de pouvoir, comme le disait Morty, partager un excellent jeu avec des amis.
Ça participe.
Bonsoir, c'est Stéphane Bern.
Au charme du jeu. À qui s'adresse du coup le jeu? Parce que s'il est grave plus difficile, pour reprendre cette expression consacrée, ça s'adresse finalement
au monde, en fait.
Pas seulement aux experts du premier?
Non, surtout aux amateurs de jeux de plateforme, en fait.
C'est ça.
Moi, j'étais stupéfait quand Derek Yu avait publié le code source du composant déplacement du personnage en me disant c'est super, ça veut dire que dans d'autres jeux, on va pouvoir retrouver la même maniabilité que dans Spelunky. Mmh. Mais quelque part, c'est un peu ça, c'est que même un Mario, je le trouve un petit peu flottant. Spelunky, c'est hyper carré. Tu vas faire un saut, tu es sûr que tu vas réussir ton saut. Si t'as appuyé sur le bouton, tu vas le réussir. Il t'offre un léger temps, tu sais, typiquement dans un épisode de Bip Bip et Coyote, tu vas voir Coyote qui va glisser au bout d'un rocher et puis qui va tomber. Bah là, dans Spelunky, tu vas avoir le même effet. C'est-à-dire que si tu arrives au bout d'une plateforme, tu vas avoir quelques microsecondes pour pouvoir encore appuyer sur la touche pour pouvoir sauter. Il est hyper tolérant de ce côté-là. Ce qui fait que la plupart du temps, quand tu décèdes ou que tu rates quelque chose, tu sais que ça vient de toi. Tu as du mal à punir le jeu. Après, moi, j'ai des critiques vis-à-vis du 2 qui justement remettent un peu en question ça, mais sur le principe, c'est vraiment un jeu de plateforme qui est hyper carré et dont le déplacement est hyper satisfaisant.
Mieux alors dans ce cas-là. Du coup, on conseille un peu à tout le monde.
On conseille un peu à tout le monde.
Faut être persévérant.
En gardant en tête que c'est difficile. Moi, la métaphore que j'aime bien par rapport à Spelunky et encore plus avec Spelunky 2, c'est prenez-le.
J'ai peur.
Prenez-le comme un jeu d'arcade. Prenez-le comme quelque chose que vous allez recommencer, mettre une pièce. Alors là, évidemment, vous n'avez pas de vraie pièce à mettre dedans. Et vous allez recommencer au début, et ça va être injuste. Mais vous allez avoir tout l'attrait de chaque partie, que chaque partie, finalement, quelque chose pourrait se passer, vous pourriez réussir, etc. Et c'est cette tension, cette adrénaline qui vient à chaque fois que vous lancez une partie de Spelunky, et qui fait le charme. Ça, et évidemment, les mystères, redécouvrir certaines choses, découvrir des passages secrets, découvrir des mondes cachés. Ça vient avec, évidemment.
C'est extrêmement gratifiant, en fait. La courbe d'apprentissage est très rapide.
Carrément.
Tu n'atteins pas un plateau, en fait. T'as toujours des trucs à découvrir. Ouais. Et en fait, tu peux jouer 300 ou 400 heures comme moi ou Greg. Par contre, tu peux très bien en 10-15 heures déjà avoir réussi ton premier run en entier.
Ouais. Quand vous me dites ça me fait penser à un autre jeu, du coup. Vous me dites si c'est le même type d'apprentissage de difficulté. Enfin, quand j'écoutais Yann, tout de suite, en fait, j'ai pensé à Super Meat Boy, quelque part.
En quelque sorte, le côté la mécanique roguelike en moins, en fait, finalement, mais
parce que Super Meat Boy, tu meurs énormément, oui. Et c'est comme ça que tu progresses.
C'est le même genre de flow et de satisfaction, et c'est le même fait d'apprendre une mécanique, enfin une maniabilité de jeu de plateforme extrêmement rapide. Mm-hmm. Oui, il y a là-dedans la même chose, mais après il y a toute la surcouche de Est-ce que t'achètes des choses au marchand ou est-ce que tu le tues? Parce que si tu le tues, évidemment, tu prends le risque que c'est lui qui va y te tuer à la place et d'énerver les autres marchands dans les niveaux suivants. T'as toute une logique de trade-off et de conséquences dans un niveau que tu vas avoir par la suite. Est-ce que j'utilise la bombe maintenant, la dernière bombe qui me reste? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je vais potentiellement louper un objet, un coffre au trésor que j'aurais pu avoir si j'avais gardé ma bombe? Est-ce que j'utilise le petit animal que je peux prendre pour me soigner d'un point de vie quand j'arrive à la fin du niveau pour l'escorter vers la fin? Est-ce que je le prends ou est-ce que je m'en sers comme bait pour qu'il se prenne une flèche dans le buffet? C'est constamment en fait des trade-offs que tu n'as pas dans un jeu comme Super Meat Boy et qui ajoute une couche, on va dire, de réflexion, voire même de stratégie, un peu en temps réel, un peu instant par instant. Comment est-ce que je vais faire pour survivre? Ça, c'est quelque chose que un jeu comme Meat Boy n'a pas, pour le coup.
C'est clairement un jeu cause-conséquence, et à l'opposé de Super Meat Boy, où tu vas passer tout le jeu à apprendre la maniabilité, le Spelunky, dans les 30 premières minutes, la maniabilité, elle est rentrée. Et tu vas pas découvrir grand-chose de plus.
Donc en fait, c'est l'inverse. Donc tu apprends plutôt l'environnement plutôt que la...
Exactement. C'est tout à fait ça.
Même si certains power-up que tu peux avoir peuvent changer ta maniabilité, et c'est des choses à réapprendre. Par exemple, si t'as un power-up qui te fait simplement sauter une case plus haut, tu dois pas compter de la même manière. Tes dégâts de chute, tu dois les anticiper de manière un petit peu différente, parce qu'évidemment, quand tu tombes d'un peu trop haut, tu vas te prendre un dégât de chute. Donc il y a quand même ces facteurs-là qui rentrent en compte. Mais oui, c'est beaucoup plus l'environnement, les ennemis, le décor, les items, etc.
Globalement, bon, Zer, plutôt d'accord. On sent que le jeu est plus complet, plus poussé que le premier. On peut dire que c'est plutôt une suite réussie, non?
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une suite réussie, très réussie, et qui va un peu, qui contredit un petit peu la doxa en matière de suite de jeux indépendants, parce que généralement ils cherchent à trouver un twist. Là, le twist, c'est que c'est juste plus dur et plus fouillé avec plus de choses à l'intérieur. c'est intéressant d'avoir pris ce parti pris. Après, il sort 8 ans après le premier, donc je pense pas que ce soit une offense absolument violente. Je dirais aussi que le premier reste un excellent jeu. Et si vous n'en avez fait aucun des deux, j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle, vous avez deux Spelunky de qualité à vous faire dans l'ordre que vous voulez.
Le premier est peut-être un peu plus accessible, oui.
Oui, le premier est plus accessible pour les raisons qu'on a développées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non seulement c'est une suite réussie qui marche pour quelqu'un qui a déjà beaucoup joué, voire même qui a rincé le premier, mais en plus, si vous avez touché à aucun des deux, bonne nouvelle, vous avez deux Spelunky.
Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter du coup sur Spelunky 2?
Je vais nuancer un petit peu, parce que c'est vrai que si on prenait à la fin de mon premier week-end sur Spelunky 2, je me suis dit, mince, il est raté. En fait, je trouvais pas mes marques. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'ajouts qui servaient à rien. J'ai trouvé que les promesses étaient pas tenues. Une des promesses de Derek Yu, c'était on va repenser les objets pour qu'ils aient tous une utilité, parce que globalement il y a un objet qui était dans le premier et qui est dans le deuxième qui s'appelle le jetpack, qui permet effectivement de remonter en vertical, ce qui casse un petit peu le jeu. Mais en fait, il y avait des gens qui ne jouaient qu'avec le jetpack puisque c'était ça rendait le jeu beaucoup plus rigolo et surtout beaucoup plus facile. Derek expliquait dans ses interviews qu'il espérait avoir compenser ça, et malheureusement là après quelques heures sous le coude, je trouve que ça c'est raté. Par contre, ça c'est un contrat qui a raté, c'est qu'on a toujours ses objets favoris. Ceux qui auront pris certains objets dans le 1 vont continuer à les prendre dans le 2 parce qu'ils sont toujours aussi utiles, les nouveaux sont très peu utiles. On a des soucis au niveau de la génération aléatoire. Spelunky 2 fonctionne comme le premier Spelunky, c'est-à-dire que un certain nombre de... Le jeu a à sa disposition une palette d'écrans qui va mettre les uns à côté des autres pour former un niveau. Et je trouve que cette palette est moins riche et a parfois des conséquences en termes de cul-de-sac.
Si je peux me permettre, c'est intéressant parce que Derek Yu en a parlé dans son interview avec Noclip, dans le podcast de Noclip, qui est cette chaîne YouTube qui propose des documentaires. Là, ils font aussi beaucoup de podcasts en parallèle. Et il expliquait qu'en fait, là où il a mis le plus, lui en tant que level designer, d'efforts, et là où il y a en fait le plus d'écran potentiel, c'est pour le monde 1 et qu'il y en a proportionnellement moins pour les mondes suivants.
Ce qui est pas gênant, puisque en fait,
on les voit moins souvent.
C'est pas forcément ça, c'est qu'à bout d'un moment, c'est plus les monstres qui sont dedans qui font le niveau.
Ouais.
Donc c'est pas gênant de pas avoir de complexité architecturale avec des gros guillemets. Mais du coup, on se retrouve dans des situations qui sont plus souvent soit cul-de-sac, soit cul-de-sac où normalement il devrait y avoir un objet à trouver et il n'y a rien en fait. C'est-à-dire que l'aléatoire est moins bon que dans le premier. Pour l'instant, je le trouve moins bien dosé. Et il est surtout, le 2 pour le moment, je le trouve qui est plus injuste. On se retrouve avec des situations sans issue, on a des ennemis qui sont mal placés. Typiquement, ils ont rajouté un second plan où on peut rentrer dans une grotte, arriver au second plan, puis revenir au premier plan. Il arrive qu'en revenant au premier plan, on se retrouve superposé à un ennemi avec à peine, je sais pas, un quart de seconde de réaction. Et du coup, on se fait tuer alors qu'on y est pour rien, en fait. Là, c'est vraiment... je trouve qu'il est il est plus injuste que le premier. Et c'est dommage parce que c'était justement l'intérêt du premier, c'est qu'il n'était pas injuste et que c'était souvent la faute du joueur si on se trompait.
Ça, je me demande si ce sera pas un peu patché par la suite d'ailleurs.
Oui, c'est possible.
C'est effectivement assez injuste et je pense que la communauté risque de pas mal râler contre ça. D'ailleurs, j'ai déjà vu la communauté râler un petit peu contre ça. Mais ça va peut-être faire boule de neige.
Après, la communauté râle toujours un petit peu de toute façon.
Et après, il y a beaucoup de choses où c'est un peu deux écoles. Je sais qu'il y a des changements de manipulation. Par exemple, avant, il y avait un gant qui permettait de s'accrocher aux surfaces.
Oui.
C'était automatique. Maintenant, il faut que tu gardes la croix directionnelle vers la paroi sur laquelle tu veux t'accrocher. Ça change beaucoup le feeling du jeu. Et autant le gant était un objet qui était boudé parce que c'était automatique, autant je le trouve encore plus trompeur maintenant qu'il a un comportement différent.
Ce que j'allais dire justement, moi j'aimais pas justement le fait que ce soit automatique, j'étais justement anti
Là maintenant du coup tu risques de te faire surprendre parce que tu vas pas vraiment savoir si tu accroches ou pas. Je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Par contre, effectivement, dans les plus, là où j'avais peur en voyant les trailers, il est hyper lisible. Vraiment, on se trompe pas. Comme disait Yann, il y a 2-3 ennemis qui malheureusement se fondent dans le décor, mais ça reste une exception. Je pense que c'est pas la règle. On a de nouveau plein de choses à découvrir, et ça, c'est pour un fan de Spelunky, c'est quand même fantastique. Ça relance un intérêt monstrueux. Et le souci, c'est que tu vois le monde 1-1 et 1-2 beaucoup trop souvent. Il est vraiment beaucoup trop difficile au début. Et autant ce sont les taupes qui ont été un cauchemar pour Yann, autant moi ce sont les lézards à cornes qui ont une palette de d'attaques qui est un peu trop étoffée à mon goût pour une créature que tu croises dès le premier écran du niveau.
Eh bien, voilà. Très bien. Si vous avez Yann, tu voulais ajouter ?
Non, c'est bon. Enfin, voilà, je comprends tout à fait ce que dit Morty. Et il a clairement mis beaucoup plus d'heures dans le jeu que moi, dans le premier en tout cas, pour pouvoir justement remarquer ce genre de choses. Et je crois, tu as joué au premier encore quelques jours, quelques semaines, voire quelques jours avant que sorte le 2. Et donc, tu l'avais beaucoup plus frais dans la mémoire et dans les mains.
C'est ça. La semaine juste avant, j'essayais de faire un top 5. Pour l'instant, j'ai fait qu'un top 7. Malheureusement, j'étais parti sur un top 5. Et j'ai pas pu. Et effectivement, il y a tellement de petites choses qui ont changé. C'est difficile parce qu'on va les juger. On va les juger assez vite. Greg, je sais pas si ça te parle, mais tu sais pour les pièges qui lancent des flèches.
Oui.
Quand tu te retrouvais à court d'objets, tu lançais, tu sais, les petits insectes du décor.
Oui, pour justement que les flèches soient tirées.
Exactement.
Et que tu puisses les récupérer après.
Et je te laisse imaginer que c'est une micro décision. Hein. On voit bien que c'est un tout petit aspect du jeu, mais c'est une décision que je ne comprends pas. Là, tu vas croiser des bousiers que tu peux ramasser et que tu peux lancer, et ils n'ont absolument plus aucun intérêt. Alors que j'ai voulu m'en servir pour déclencher un piège, fatalement je suis décédé. Mais on apprend vite.
ok. Oui, c'est vrai que le fait de justement pouvoir récupérer les insectes, ça n'a plus d'intérêt du coup.
Exactement.
Ou alors, peut-être quelque chose que vous n'avez pas
on
encore découvert.
Non,
mais...
tout à fait, tu as raison.
Ce serait bizarre en effet que ça reste comme ça.
Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de passer au suivi et au courrier des auditeurs. Je vais commencer d'abord par un petit commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous laisser votre avis. Un commentaire qui nous signale que nous sommes excellents, quand même.
C'est beau.
5 étoiles, hein, c'est joli. Enfin, c'est pas nous qui sommes excellents, c'est le podcast. Hein, donc soyons humbles quand même. Après, on va encore dire que nous sommes condescendants. Un podcast spécialisé jeux vidéo vraiment très complet et les deux chroniqueurs maîtrisent leur sujet. Je recommande pour celles et ceux qui ne veulent pas perdre le fil d'une actualité vidéoludique toujours plus importante et parfois compliquée. Merci à vous. Merci Flav 6983. Ouais. Alors je vais me permettre du coup de nuancer quand même les propos de Flav parce que
on n'est pas si bon que ça.
Non, c'est bon que ça, c'est qu'on n'est pas si complexe ça, surtout, parce que c'est vraiment le prisme de nos goûts, hein, ce dont on parle, les jeux qu'on fait, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de jouer à tout, et même on n'a pas forcément le temps de forcément aussi s'intéresser à tout, comme on le voudrait, parce qu'on vieillit malheureusement, donc on a moins de temps libre. Mais voilà, donc c'est au moins pour les amoureux des jeux de Nintendo, des jeux de plateforme. Voilà, c'est déjà ça. Donc, tu voulais réagir peut-être, Yann, sur ce...
Non, pas particulièrement, à part remercier évidemment cet auditeur pour sa recommandation. Et puis non, voilà, c'est chouette.
Voilà, et je voulais simplement préciser du coup que le Playmobil 6983, donc tiré du pseudo de notre ami Flav, c'est donc la scène du bateau de croisière. Donc voilà, c'est
exciting and new.
Exactement, très beau Playmobil. Sur Twitter, du coup, en rapport avec Spelunky, de Rodrigue demande, le prolifique Rodrigue demande, j'ai pas vu d'infos sur une sortie Switch. Auriez-vous des infos là-dessus?
Pas d'infos spécifiques, en tout cas, à ma connaissance, ayant suivi le truc. Cependant, c'est pas, le jeu sera pas limité à la PS4 et au PC. Il sortira également sur d'autres plateformes. Et on peut s'attendre à ce que la Switch en fasse partie, étant donné le succès commercial de cette plateforme. Donc,
la demande est très forte et le succès de Spelunky sur Vita montre que effectivement pour du portable ça fonctionne très bien, le format est impeccable
et on aura une meilleure croix
et des meilleurs boutons, pardon.
Et les boutons de tranche sur Vita c'était pas top, hein.
mais effectivement pour l'instant les plateformes annoncées c'était PlayStation et deux semaines plus tard sur Steam, donc sur PC. Je sais que Derek Yu est un perfectionniste, donc il est plutôt du genre à vouloir gérer ses sorties une par une et annoncer seulement ensuite.
Voilà, when it's done, donc probablement fin d'année ou début d'année prochaine peut-être. Voilà, après tout dépend aussi de ce qu'a payé Sony pour l'avoir en premier.
Après voilà, vu le succès de la Switch aussi, c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a de l'intérêt un petit peu pour tout le monde, carrément. Évidemment. La très fidèle Red, que j'embrasse extrêmement chaleureusement, nous dit qu'elle n'a jamais joué à Spelunky. C'est important de le faire ou c'est mieux de passer directement aux deux? Tu as un petit peu répondu du coup, Yann. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on peut commencer par le premier?
Oui, je pense que ça reste une bonne idée. Alors, ceci dit, si vous y jouez sur un écran relativement grand, vous découvrirez assez vite que le jeu a vraiment été fait en 720p à la base et les illustrations pas vraiment été upscalées. En tout cas, c'est le cas sur ma version Steam.
Ok, moi je joue en 1440p, ça me pose pas de soucis.
Ah d'accord, non, ça me pose pas de soucis. Non, je dis pas que ça me pose pas de soucis. Juste que
j'ai pas trouvé moche.
Sur mon écran 1080p, l'écran par exemple sur lequel tu sélectionnes le personnage, je trouve que l'illustration qu'il y a derrière pixelise de manière dégueu. Mais
j'ai des personnages custom, donc peut-être que c'est plus ça.
C'est peut-être ça. En tout cas.
Ce que je lui conseille, c'est si elle a l'occasion de jouer avec quelqu'un qu'elle connaît et qui connaît le jeu, le 1 serait une meilleure porte d'entrée parce qu'il est plus facile et il te laisse plus le temps de découvrir. Le 2. Il te jette un peu tous ces ingrédients difficiles à la tête dès le début et ça peut être un peu plus frustrant.
Et ton conseil,
le mieux c'est de pouvoir le faire avec quelqu'un, peu importe le jeu. L'avantage sur le 2 c'est que potentiellement tu peux jouer avec des gens qui sont pas dans ta pièce.
C'est ça. Voilà. Ton conseil, Greg, du coup.
Moi je dirais que le 1 reste un excellent jeu à faire de toute manière au-delà du 2. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure. On vous conseille aujourd'hui deux très bons jeux de toute manière, donc n'hésite pas à acheter Spelunky. À mon avis, il ne doit plus être très très cher, justement, 8 ans après.
Ok.
Très bien. Eh bien, écoutez, la cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci bien sûr à nos deux invités, Morty et Greg.
Oui, moi je profite juste pour faire une petite parenthèse autopromo, si je peux me permettre.
Bien sûr, profitez-en.
Si vous voulez des cours de Spelunky ou si vous voulez jouer pour apprendre le jeu en compagnie, j'ai tendance à le streamer sur Twitch. Donc moi c'est MortyDice, MortyDice.
/ MortyDice, le lien sera dans la page de l'épisode.
Tout comme mon Twitter si jamais vous voulez prendre rendez-vous pour jouer ensemble. Voilà, et ce sera avec grand plaisir.
Et c'est noté. Et toi Gregenko, est-ce que tu as quelque chose à plugger?
Écoute, on peut aussi me retrouver sur Twitch de temps en temps, twitch.tv/Greg_Yenko, Yenco. Le lien sera dans la description aussi du podcast grâce à l'excellent Yann.
Oui.
Où là aussi, de temps en temps, je me suis remis justement à Spelunky il y a quelques semaines, donc je m'y mets aussi de temps en temps, sinon c'est du GTA V, du GeoGuessr, ce genre de choses.
Ok.
Très bien, bah sur Twitch, n'hésitez pas aussi à rejoindre Blueprint. Vous pouvez nous écrire avec vos questions, vos réactions, vos idées de jeux, nouveaux, rétro, des tops aussi par email, lacartouche@blueprint.pm, yes, comme Playmobil, et sur Twitter, @lacartouche_bp. Attention, c'est pas pareil. Toujours sur Twitter, vous pouvez bien sûr nous suivre nous-mêmes. XHD pour Yann. Yes. Merci beaucoup, Yann, d'avoir d'ailleurs été présent pour cet épisode, comme d'habitude.
Mais de rien.
Et puis, moi-même, @Alex, le serveur. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao, ciao.
Quelle musique originale.
C'est le trailer, j'ai pas trouvé grand chose.
Il y a pas énormément de musique.
Fun fact, la soundtrack n'est pas encore sur YouTube.
C'est dommage parce que le monde 1-1, il a un super épique pour accueillir ceux qui viennent du Spelunky 1 qui est incroyable.
Oui. Ah, cool.
Non, carrément. T'as une espèce d'envolée lyrique, je fais what, c'est juste le niveau des cavernes. Et ça te saute à la figure, enfin aux oreilles, tu fais wow.
Je tiens à dire, je fais une petite parenthèse. Ça donne l'impression, là, l'épisode qu'on vient de faire, qu'on a beaucoup spoilé à propos de Spelunky 2. Pas du tout. Juste, il y a tellement de trucs dedans, vous avez pas idée. Donc,
Greg, j'ai trop envie de voir ta tête quand tu vas croiser un ennemi du premier qui va faire un truc particulier. Je pense que Inks voit très bien de ce quoi je veux parler. Ouais. C'est juste incroyable et fantastique.
Tu verras, tu verras. On n'en dit pas plus.
Vous le vendez bien.
On n'en dit pas plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'after show cette fois-ci? Tu veux d'abord nous faire peur, Lou, je crois.
J'ai envie de parler surtout des jeux qui ont été, d'ailleurs j'en ai oublié un qui est important, mais c'est dire à tel point il m'a laissé
un souvenir impérissable
de marbre. Ouais, c'est ça. je voulais reparler un petit peu des jeux qui ont été présentés durant l'annonce de la PlayStation 5. J'ai été vraiment vraiment emballé par le trailer de Resident Evil Village, que j'ai trouvé Je trouve ça fort. Déjà, j'avais adoré tout ce qu'il y avait autour du 7. Alors, bon, on a un petit peu vanné sur Spelunky. Lou, il achète des jeux, il y joue pas. Alors, le 7, je l'ai acheté, j'ai joué. Je me suis arrêté jusqu'au... vous savez, ce passage-là, il y a un moment, donc tu traverses une forêt au début du jeu. Et puis, il y a un portail avant une maison, je me suis arrêté au portail. Donc, j'ai joué à peu près 5 minutes. Donc, voilà... J'avais adoré quand même toute l'ambiance du set, j'avais fait la démo, etc. J'avais vu pas mal d'images, j'ai vu quelques vidéos sans trop me spoiler. Et j'aimais bien ce retour finalement aux racines horrifiques plutôt que l'action. Et là, je trouve que le 8 nous emmène mais tellement loin, tellement... je sais pas ce que ça va donner, mais il y a un relent un petit peu du 4, tout ça, cette ambiance dans la neige, feutrée, très différente en même temps, avec ce côté une vieille folle, enfin voilà, le côté village inquiétant. Je kiffe, enfin, je sais pas, est-ce que ça vous a inspiré, ça, je suis le seul à m'emballer pour cet épisode.
Je déteste les jeux d'horreur.
Voilà. Ah, je vais te taper les orteils avec un petit marteau.
Je les déteste pas, mais en tant qu'hypersensible, le problème c'est qu'un film d'horreur ou un jeu d'horreur, je tiens même pas 5 minutes.
Mais alors, vous savez, je suis extrêmement flippé. J'ai dû dormir avec une veilleuse jusqu'à l'âge de 12 ans quand même. J'ai un traumatisme du noir, tout ça. Donc c'est, enfin voilà, et j'ai commencé le premier Resident Evil, je devais avoir quoi, j'avais 18 ans, je pense, parce que j'étais à la fac, et c'était le remake qui était sorti sur GameCube. C'était mon premier vrai contact avec un jeu d'horreur. Et ça m'a traumatisé, mais je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu les espèces de zombies se relever, là, les Crimson, et évidemment les Doberman qui sautent par les fenêtres. Souvent, des souvenirs horribles. Et aujourd'hui, ça va, en fait. Je flippe beaucoup moins. Et j'ai quand même très très envie. Toi, Yann, tu t'es comment par rapport aux jeux d'horreur?
Oh, comme Morty et Greg, globalement. C'est vraiment
je me sens seul, quoi.
C'est vraiment pas mon style.
Pour une fois qu'on parle pas d'un jeu de plateforme Nintendo,
j'aime
quand même.
C'est pour ça qu'on parle de Nintendo.
Lou, je te trouve très condescendant avec moi, quand même.
Après, je trouve ça fantastique à regarder. Autant si je suis avec un pote ou une copine qui joue à un jeu d'horreur, je vais pouvoir regarder. Je vais me cacher probablement 5 mètres plus loin. Mais à regarder, je trouve ça fantastique. À jouer, je trouve ça trop stressant. J'ai essayé Resident Evil 2, le remake, c'est ça, si je dis pas de bêtises, récemment. Et au bout de 15 minutes, j'étais en sueur, j'étais flippé. C'était pas la peine.
Je préfère le fantastique et l'horreur vraiment psychologique plutôt que on te dit.
Mais justement, je pense qu'il est, il est plus. Enfin, là, de ce qu'il montre, tu vois pas de gros monstres, tout ça. Ils en sont un petit peu revenus. Déjà, avec le 7, ils en sont un petit peu revenus. Enfin, ce que j'en ai vu, évidemment, j'ai pas vu l'entièreté. Mais là, dans le trailer de Village, justement, c'est ce côté où on raconte un petit conte, etc. On voit juste un château, une vieille dame qui rit, bizarrement. Et ce genre de choses, tout est extrêmement suggéré. Et c'est ça que je trouve beaucoup plus intéressant. Et puis effectivement nous emmener sur le côté la neige, tout ça, c'est un univers qui est, du point de vue horrifique, c'est un univers qui est moins exploité au niveau du jeu vidéo, donc je trouve ça intéressant.
Non, ça c'est positif. Enfin, ça nous sort effectivement des tropismes et des habitudes. Ceci dit, étant donné que j'ai jamais vraiment plongé dans un jeu du genre, je suis mal situé pour pouvoir t'en parler, et je t'en parlerai quand j'aurai acheté à pas cher, peut-être sur Switch justement, un de ceux qui est ressorti, un vieux Resident Evil qui est ressorti, pour me faire une idée, et pour pas avoir à trop investir d'argent dedans. Mais à ce stade, je peux vraiment pas te dire. Le plus que j'ai fait, c'est la démo de RE5 sur ma 360, quoi, donc...
RE5 en plus. Mais à la rigueur, non, je sais pas, j'allais dire, commence peut-être par le 4 qui fait moins peur. C'est tellement des ambiances différentes entre le 1, 2, 3, enfin le 1, 2, on va dire, et puis 4, 5, 6 d'un côté, et là 7 et 8, enfin tu vois, c'est très 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 différent. En fait, j'ai l'impression que depuis l'épisode numéro 7, il y a une certaine convergence vers Silent Hill. Qui a disparu un petit peu finalement des radars, ce qui est pas forcément pour me déplaire. Il faut juste que je trouve du temps du coup de me plonger là-dedans, mais je pense que le 8, là je vais dépasser le portail et essayer de prendre le temps d'y jouer.
J'allais dire, je suis complètement d'accord avec toi, puisque la preuve c'est que le 5 et le 6 sont tellement action que ceux-là j'ai pu les faire avec un ami, donc c'est effectivement le virage qu'avait pris la série et qui commence à rebrousser un peu chemin.
Ah mais tomber des mains, c'est terrible.
Michael Bay en fait.
Ah il m'a vraiment traumatisé dans le mauvais sens du terme. C'était pas un bon traumatisme, contrairement à ce que le 8 promet. Je vais peut-être vous parler d'un jeu du coup qui va vraiment vous faire peur, c'est Harry Potter du coup.
C'est Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard.
Effectivement, ça se passe 100 ans avant Harry Potter, donc
200 ans avant Harry Potter.
Oui, bah c'est pareil.
Deux siècles.
Donc, Harry Potter créé par Hatsune Miku, comme chacun le sait.
4 fois 50 ans.
Alors, j'ai vu beaucoup de gens baver sur les graphismes. J'ai envie de désamorcer ça tout de suite. Enfin, c'est formidable, c'est incroyable. J'ai été extrêmement.
J'ai trouvé
déçu,
ça
un petit peu fort.
Bien.
Voilà, on est d'accord.
J'ai trouvé ça bien.
Les personnages, je trouvais ça. Ça faisait pas très next-gen.
Ceci dit, la modélisation des êtres humains, c'est toujours le parent pauvre, mais.
Oui, mais là, franchement, ça faisait pas next-gen. Je suis désolé, ça m'a pas fait tomber de
chute. Surtout que c'est seulement bien et que ça sort pas tout de suite. Donc on aura eu le temps de prendre des baffes d'ici là.
Et c'est pas next-gen puisque ça sort également sur PS4 et Xbox One.
Explique peut-être cela, mais après sur le principe, est-ce que vous ça vous emballe ou pas le côté
je sais que je devrais pas parce que tout le monde a raison d'ailleurs, a tendance aujourd'hui à beaucoup critiquer la licence Harry Potter. C'est un univers qui m'enchante toujours aujourd'hui pour tous les défauts qu'il peut avoir, et notamment pour tous les défauts que son auteur peut avoir, mais même je vais reconnaître, je suis en train de relire les bouquins en ce moment, voilà, soumis, attaquez-moi, mais pour le coup, quand bien même l'autrice de Harry Potter a des vues absolument répugnantes, notamment des vues transphobes, on peut pas retourner la question de 15 000 manières.
Il n'y a plus de soucis.
Ça en plus d'autres choses, et que les bouquins ont des défauts, sa façon d'écrire certains personnages ont des défauts, de rétroactivement venir et dire « Non, il y a de l'inclusion homosexuelle dans mon bouquin, regarde, il y a tel et tel personnage qui, en fait, sont gays !» Et puis non, enfin c'est débile.
Ah, c'est un peu suggéré quand même pour Dumbledore, c'est peut-être pas, pas assez.
Ah, tu sais, ce personnage-là, en fait, il est noir, genre 3 bouquins après, oui, c'est un peu étrange.
Ouais, et puis Cho aussi qui rajoutait un petit peu au chausse-pied finalement. Mmh, enfin, ça fait plus personnage totem. Après, enfin moi le premier, j'ai vraiment adoré les livres Harry Potter. Je pense que je prendrai un vrai plaisir à les relire. J'ai moins accroché l'univers des animaux fantastiques.
Le deuxième film est compliqué. C'est un podcast cinématographique, mais oulala.
Moi, j'ai une petite question sur le jeu. Du coup, on se dirige vers un action RPG, c'est ça, si j'ai bien compris?
Apparemment, oui.
Mais du coup, solo
Open
ou
World action RPG.
Solo, bah, alors
plutôt solo, ouais, j'ai l'impression.
Parce que moi, étant le bisounours de la bande en général, c'est un univers que j'aime beaucoup. Forcément, si je vous dis que les 3 ou 4 premiers sont mes préférés et qu'après je trouve ça beaucoup trop dark pour ce que pour le message et pour ne serait-ce que le plaisir de la découverte de l'univers.
Totalement.
Moi, c'est quelque chose qui pourrait extrêmement me tenter, mais j'aurais adoré pouvoir partager ça avec des amis.
Non, à ce stade, c'est plus orienté un joueur, mais il y aura, je pense, puis on est dans un monde de game as a service, donc tu sais, on ne refuse pas un peu d'argent, donc je m'attends à ce qu'il y ait également.
Attends, je sais pas si à un moment il n'y a pas deux personnages, non, c'est juste une cinématique en fait, j'ai l'impression de voir deux personnages sur un balai, tout ça. Donc
à ce stade, c'est surtout, on voit du gameplay, mais c'est du gameplay très très lorien de on te montre quelle sensation tu vas avoir en jouant plutôt que te montrer une boucle de gameplay véritablement. Donc à ce stade, on n'en sait encore pas trop sur le jeu. On sait qu'il existe, enfin, proprement parler, et on sait que on sera dans Poudlard. Et c'est ça finalement qui m'intéresse le plus en fait avec Hogwarts Legacy, c'est que comme d'habitude, et c'est le truc le plus intéressant de la saga Harry Potter, ce n'est pas Harry Potter. La série devrait pas s'appeler comme ça. La série, ça devrait s'appeler. Il y a un monde magique qui est intéressant et il y a un personnage au milieu. c'est surtout ça en vrai. Et le fait qu'on se concentre sur Poudlard et qu'on dise, et en même temps, tu pourras visiter d'autres lieux cool comme le chemin de traverse, etc. C'est à mon avis la bonne approche parce que l'important c'est pas ton protagoniste qui va être clairement un gant
random guy,
mais ça va être ton d'évoluer, de découvrir, de voir
tout l'univers,
ces lieux là ça va forcément être influencé par l'imagerie des films, mais d'ailleurs je le vois rien que sur le key art où tu vois genre tu vois Poudlard et tu vois le pont qui mène jusqu'à, je crois que c'est la cabane de Hagrid dans ce sens là ou la volière, je sais plus, ce pont là il est très clairement copié-collé depuis le film de Quaron qui a été utilisé dans tous les autres films derrière. Le film de Quaron, donc c'est Azkaban. Ça se voit que c'est cette imagerie là qui est reprise, elle est reprise dans le jeu Lego Harry Potter, elle est reprise partout. Donc clairement l'image des films est réintégrée derrière. Enfin, je trouve pas que ce soit un gros problème, et non vraiment que ce soit Poudlard au centre, très bonne nouvelle.
Moi, c'est ça qui est intéressant, justement. C'est ce qui m'emballait dès le début du film. Je dis, waouh, on va pouvoir se balader à Poudlard et tout, c'est trop cool. Et après, ils te disent, on va t'ouvrir en plus les autres lieux, découvrir les créatures, tout ça. Donc, ouais, non, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va être. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu qu'on perde quand même tout ce côté, parce que, alors, moi, contrairement à Morty, du coup, ce que j'aimais bien, c'était tout ce côté, Voldemort, etc., les mange-morts, ce côté un peu secte finalement,
mais en fait,
qui était intéressant.
Ils vont retrouver, je pense, des ennemis un peu dans le même style, hein, malgré tout, je pense.
Mais du coup, ce seront pas des ennemis qui seront c'est aussi pour ça que j'aime moins les animaux fantastiques, parce que c'est des choses, ça fait vraiment pièce rapportée. Oui. Et là, ça fera pièce rapportée, quoi.
Même,
que là. Voilà, exactement, c'est le terme idéal, quoi, apocryphe. Et là, du coup, ce sera vraiment des personnages qui seront créés pour l'occasion qui auront pas la même construction en tant que personnage, parce que
d'ailleurs
Voldemort est pas intéressant d'ailleurs en tant que personnage, mais la construction de ce qu'il était avant d'être Voldemort et surtout de son entourage finalement, les Malfoy notamment, et tout ce qu'il y a autour des mange-morts, que je trouve beaucoup plus intéressant finalement en termes de lore,
en termes de dilemmes moraux, en termes de bien sûr
qui s'est construit vraiment sur des années, hein, c'est ça aussi qui est très intéressant.
Ce que je trouve décevant,
là ce sera pas le cas, quoi.
Ce que je trouve décevant, je trouve ça décevant là-dedans, comme je l'ai trouvé décevant vis-à-vis d'une éventuelle adaptation de série qui a toujours pas existé, alors que mon dieu, Warner c'est HBO et HBO pourrait faire un truc génial avec.
Aye.
Et également avec d'autres jeux, c'est il y aurait à mon avis un truc en or qui consiste à juste prendre genre 10 ans avant les événements du premier bouquin. et de faire soit une série, soit un jeu, soit n'importe quoi d'univers étendu là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une bonne opportunité de prendre ces 10 ans-là, parce que c'est juste après que les Mangemorts soient arrêtés et que Voldemort soit déchu, parce que c'est littéralement peu après la naissance de Harry Poitier, et il y a de la place pour faire tout un cycle, par exemple, d'études à Poudlard là-dessus, avec peu ou prou les mêmes profs. Alors il y a justement la question de quand et comment est-ce que Rogue arrive à mettre des potions alors que c'est un ancien Mangemort qui s'est retourné. Enfin, je vais pas vous faire littéralement tout le truc, mais ce serait en termes d'histoire extrêmement intéressant de le faire et de voir encore une fois la malédiction pour le poste de défense contre les forces du mal, etc. Il y a plein de trucs à faire avec les mêmes personnages que tu connais, mais pas avec les mêmes étudiants, ce qui te permet de mettre quelque chose d'habituel et en même temps quelque chose de nouveau, de pouvoir développer tes propres histoires, mais en même temps de pouvoir les raccrocher à celles que tout le monde connaît. Je trouve dingue que personne ou que aucun projet qui a été greenlighté n'ait eu cette base-là comme setting général pour quelque chose dans le monde étendu de Harry Potter. Voilà.
Ouais. Mais du coup, il y avait eu ce truc sur Twitter qui tournait il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous feriez avec, je sais pas, c'était 700 millions de dollars, j'en sais rien. Mais du coup, moi, j'achète les droits de la série Harry Potter, enfin de la licence Harry Potter, j'en fais une série.
Ouais. Ah non, t'as juste de quoi acheter les droits de la licence, je pense.
Ah ouais, j'en fais quand même une série. Et
ceci
du
dit,
coup,
avec ça, tu peux du coup amasser plus de pognon et ensuite faire la série.
Je fais la série et surtout c'est que du coup dans mon adaptation Harry sera un homme transsexuel du coup. Voilà.
D'accord, pourquoi
pas. Donc, comme ça. Je... dans les jeux qui ont été montrés aussi, il y a eu l'annonce, enfin la concrétisation de toutes les cristallisations de tous les espoirs qui ont éclaté comme des petites bulles autour de Final Fantasy XVI. Enfin,
félicitations, c'est un jeu Square Enix.
Ce trailer m'a vraiment laissé totalement indifférent, mais à un point inimaginable.
Ça dépend de tes épisodes préférés, parce que on a.
Mais je sais, non, mais j'ai vu Aura Blade qui était là, je suis trop fan, c'est formidable, machin et tout. Parce qu'il adore le 14, tu vois. Je joue au 14, j'aime beaucoup le 14. Le 14 a des graphismes génériques parce que bah, c'est un épisode, c'est un MMO, mais je veux dire, mais c'est des personnages, mais ils ont tous une gueule de. Dans ce trailer, les personnages principaux de FF16 ont tous une gueule de putain de PNJ.
Random. Ouais, je suis tout à fait
d'accord. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est anti-FF16.
Il n'y a pas tout vendu de rêve. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils nous sortent tous les 2-3 ans une démo technique où les personnages ont plus de charisme, l'univers a l'air d'avoir plus de profondeur que ce qu'ils nous ont sorti là.
Je me souviens davantage de la meuf qu'on avait vue dans je ne sais plus quel trailer, ça va être pour annoncer le 15 d'ailleurs, la rouquine, qui m'avait énormément marqué. Je me souviens plus de son visage que de n'importe quel visage du trailer de FF16 que j'ai vu il y a 2 semaines. Enfin, c'est pas normal, ça.
Complètement d'accord avec toi. Mais effectivement, si tu prends des gens qui ont adoré le 9, qui sont super contents de revenir à ce type d'héroïque fantasy.
À la rigueur, l'univers médiéval, d'accord, mais je trouve que comparer le 9 à ça, c'est vraiment insulter le 9, qui a une direction artistique incroyable au niveau des personnages. Enfin, il y avait un trait, il y avait quelque chose. Au niveau de Lindblom, enfin, l'architecture de Lindblom, c'est quelque chose. Enfin, la Branett, la méchante reine, même le design de Jidane.
Branett, c'est pas le nom d'un Pokémon, excuse-moi.
Si, mais je crois que c'est aussi le nom de la reine.
Intéressant. Après, il y a encore une hypothèse qu'on peut creuser, c'est celle où le trailer est extrêmement mal choisi. Où on nous a montré tous les pires morceaux du jeu pour le moment.
Ouais, mais enfin, moi j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'ils nous sortent le jeu qui était prévu, le Versus 13 en fait, tel qu'il était prévu à l'origine. Enfin, ça va être plus sympa que tout ce qu'ils ont pondu depuis. Enfin, j'en ai marre de Final Fantasy. Là, c'est n'importe quoi. Le 15, ça m'a saoulé. Je me dis, je deviens un vieux con qui peut jouer que les épisodes 7 à 12, quoi. Enfin, 13, 7 à 13.
Et le 7 remake, du coup?
Mais je l'ai pas encore fait.
Ah, parce que.
Je l'ai pas encore fait, j'ai très envie de le faire.
J'ai passé mon temps à pleurer et à jouer en même temps. C'était assez curieux comme sensation.
Ah, c'est bizarre. Mais non, j'ai très envie de le faire. Il y a un truc qui me fait peur, c'est le fait qu'ils aient intégré au chausse-pied là aussi Sephiroth pour le faire rentrer du coup dans la première partie de l'aventure. Ce que je trouve dommage, parce que l'intérêt de toute cette première partie est de te mettre sur une fausse route finalement, c'est de mal comprendre les enjeux du jeu. Et là, j'ai peur qu'en incluant Sephiroth trop tôt, tu perds complètement cet effet de surprise qui est de mince, il y a une immense menace qui pop d'un coup en fait. Et là où je pensais affronter la Shinra et tout, j'étais dans mon délire. Et là, je pars ailleurs. Ouais. C'est une véritable ouverture de la narration au même moment où tu as l'ouverture du gameplay, c'est-à-dire la carte du monde, etc. C'était vraiment brillant d'un point de vue de game design. Et là, j'ai peur qu'on perde complètement ça. Bon, après.
J'espère que tu le vivras comme moi, mais il y a une dimension bien plus méta qui, au contraire, est encore plus incroyable, qui fait que toi qui as déjà fait FF7, tu risques même d'être surpris. Et ça leur laisse des possibilités très intéressantes.
Bah en fait, ce que j'espère, c'est qu'il y a une espèce de relecture un peu méta, justement, et peut-être que ce que tu entends par méta, un peu à la manière, attention, parallèle osée, mais c'est un RPG après tout, donc ça vaut le coup, des Pokémon. En fait, les jeux Pokémon, quand ils sont faits en remake, ça a été fait notamment au niveau de Ruby Omega et Saphir Alpha, qui ont été présentés en fait comme une espèce de monde parallèle où il se passait du coup cet épisode Delta, donc il y a l'épisode bonus à la fin avec le danger d'une météorite qui arrive du coup, qui te rajoute ce pan de narration et qui t'explique en fait, en gros, que bah heureusement qu'il y a la méga évolution finalement à ce moment-là, parce que sinon si ça avait été dans un autre monde dans lequel il n'y a pas la méga évolution, et ben ce monde aurait disparu, ce qui est rigolo parce que bah voilà, lien avec la troisième génération où il n'y a pas la méga évolution, enfin bref, blablabla. Donc il y avait une relecture un petit peu méta, donc j'espère que c'est un petit peu du même acabit, ça peut être intéressant.
Mes lèvres sont scellées.
On verra quand je le ferai. Yann, tu voulais évoquer quelque chose? Je vois que tu as supprimé du conducteur parce que peut-être leur tourne, oui. mais ce serait dommage quand même.
Juste une chose dans ce cas-là. Chers amis, j'ai précommandé une PS5. Oui.
Bah, en fait, c'est honteux.
Ça s'est fait un petit peu par hasard.
Tu as réussi à le faire.
Ça s'est fait. J'ai réussi. Bah, en Suisse, j'ai pas eu trop de problèmes. Alors bon, on m'a pris tout mon argent, mais j'ai pas eu de problème. Non, voilà, bah, c'est simplement que j'en avais déjà discuté lors d'un précédent épisode. Entre la Xbox Series X et la PS5, j'ai déjà fait mon choix. Et pour moi, avoir une console comme celle-là au launch, ça va être utile vu que cette fin d'année, être journaliste jeux vidéo, c'est vraiment un des plus gros trucs en termes de boulot, en termes de pige, en termes de podcast également pour moi. Donc c'est pertinent d'être au cœur de l'actualité. Je recommande pas aux gens de faire la même chose, je recommande aux gens d'attendre parce que les launches de consoles, il y a pas beaucoup de jeux qui viennent avec, il peut parfois y avoir des défauts techniques sur les machines, on sait pas ce que ça va nous réserver précisément, mais étant donné qu'en plus le taux de change euro-franc-suisse est extrêmement avantageux et en gros en l'état j'ai eu une PS5 pour 460€ au lieu de 500, c'est pas mal, et puis comme ça je pourrais aller la récupérer en magasin le jour de la sortie et puis je pourrais en parler dans les podcasts, dans les papiers, etc.
J'avais demandé, t'as pris celle avec lecteur, donc du coup
j'ai pris celle avec le lecteur, justement parce que quitte à faire une dépense de ce genre là autant pouvoir profiter ensuite du marché de l'occasion derrière. C'est mon raisonnement là-dessus, et j'ai appris a posteriori, alors ça aurait motivé ma décision, mais là évidemment comme je l'ai appris a posteriori je pouvais pas le savoir, que il y aura visiblement plus de disponibilité du côté du modèle avec que du côté du modèle sans lecteur optique.
Okay.
Donc t'as plus de chances évidemment aussi que ta précommande passe.
Mais du coup, oui. Tu as joué à quoi surtout?
Je joue à Spelunky 2.
Sur PS5.
Non, je vais jouer à Astro's Playroom, je vais jouer à Sackboy, je vais probablement jouer à Miles Morales, qui sera l'occasion pour moi du coup de jouer à Spider-Man. Et ça tombe bien parce que ce sera une version plus courte, donc ce sera un bon moyen de m'y lancer. Et puis ensuite, je jouerai. Bon, on avait un petit peu discuté, mais je jouerai à Deathloop en 2021. Je jouerai
à GTA 5 en 2021. 5.
Je pourrais jouer à Fall Guys en 60 images par seconde sur console. plein de trucs dingues. Non, voilà. Et puis j'ai quand même mon back catalogue PS4 qui tournera pour la plupart dessus. Tu as les jeux PS4 dans la collection PS Plus qui certains m'intéressent et que j'ai pas directement sous le coude. Donc non, enfin, il y aura des trucs. Il y aura des trucs. Je sais que c'est un lancement de console. Et ce sera pas dingue. Moi je me souviens quand la Switch est sortie, bah il y avait Zelda à prendre en cartouche, et puis il y avait Fast Remix sur les shops, et puis c'était à peu près tout. Puis il y avait aussi Shovel Knight Spectre of Torment, qui est excellent, GOTY 2017 ou presque. Il y a tellement de bons jeux en 2017, mon dieu, mais voilà, il n'y a pas forcément des milliers des cents, mais entre la rétrocompatibilité PS4 et le reste, j'aurais de quoi faire. Je sais pas si j'aurais terminé Persona 5 d'ici là, de toute façon, donc j'aurais ça à faire aussi. voilà. Parce que le problème, tu sais, Lou, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien continuer Persona 5. Mais là, on a eu Spelunky 2 et Mario 3D All-Stars qui sont sortis la même foutue semaine. Le 1er octobre, alors c'est déjà sorti si vous nous écoutez, mais nous, on n'est pas encore là. Il y a Mario 35 qui sort également. Sur Nintendo Switch Online. Ensuite, le 3 ou le 4 octobre, t'as Crash 4 qui sort. Non, c'est une catastrophe cette fin.
On a Cyberpunk pas beaucoup plus loin.
Franchement,
la fin d'année va être très très difficile.
Parles au mec qui a pas fini Luigi's Mansion 3 et Link's Awakening.
Alors,
quand même.
Le fun fact, c'est que moi non plus, mais j'ai fait du progrès sur Luigi's Mansion 3 récemment. Donc,
J'avance. Attends, j'en suis où là?
J'ai pas trouvé la quête du chat si difficile que ça. Donc. Voilà.
J'avais galéré sur le chat, moi, pour être.
Non, pas toi, mais j'ai lu des gens sur internet qui étaient là en mode oh, le chat c'est relou. Et bien finalement, en matière de quête relou dans un Luigi's Mansion, les amis.
Le chat, quand il te pique à un bouton, c'est ça?
C'est pas
c'est
relou,
ça.
C'est que c'est du backtracking.
C'est du backtracking, ouais. Mais c'est pas trop, j'ai trouvé.
Enfin, ouais, c'est rapide en même temps, enfin, c'est rigolo. Puis, c'est un moment du jeu où justement, t'avais pas trop de temps sur le. J'en suis où? Je crois que j'ai fini les sous-sols de la chaufferie, je crois. Le deuxième passage.
Ah, d'accord, je suis un peu plus loin maintenant.
Je suis pas très loin. La
l'environnement
fin, je pense, c'est 2-3 boutons. Donc,
et intéressant. Ouais, non, c'était à la chaufferie.
Ah non, attends, j'ai fait la magie.
La magie. Est-ce que.
L'étage des illusions, enfin, des précipitateurs.
Ah, j'ai pas encore fait ça.
Ah, merde, j'ai spoilé.
C'est pas grave. et tous nos auditeurs avec.
Si jamais ne vous embêtez pas à récupérer tous les rubis, etc., ça débloque quasiment rien. Je l'ai fait, c'est juste pour.
Ah, mais je veux le faire parce que c'est sympa de le faire, simplement.
Oui, c'était assez sympa. Voilà. Par contre, si vraiment t'as encore du temps à mettre dedans, ce qui avait l'air d'être le contraire du postulat de départ, profites-en parce qu'ils sont tous très drôles à récupérer.
Mais c'est le problème, c'est le temps toujours. Enfin, c'était.
Ah, mais
puis là, Hyrule Warriors qui arrive là, mais franchement, enfin.
Ouais.